Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a juste quelques jours que nous avons contemplé la seconde personne divine quitter le trône de la divinité et, au milieu de la nuit, descendre dans la crèche de Bethléem. Nous nous réjouissions de voir l'image si charmante de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Mais nous savons déjà que Noël n'est pas une aimable idylle. La naissance du Sauveur n'est que le début très amer, d'une vie riche de souffrances. C'est ce que nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui, qui raconte la scène de la présentation. Il nous laisse voir la croix à l'arrière-plan de la crèche, et à côté de l'heureuse Vierge Mère, il nous montre la mère des douleurs. Mais ce dimanche nous propose aussi une autre vérité qui fait entrer la fête de Noël dans notre propre vie. Nous devons, avec et par le Fils de Dieu nouveau-né, devenir enfants de Dieu. C'est le thème de l'épître d'aujourd'hui. Dieu envoya son Fils pour nous faire recevoir l'adoption des enfants. Voyons donc, premièrement, comment notre Père Céleste nous adopte et, deuxièmement, de quelle manière il veut nous éduquer. Dans l'ordre de la nature, Dieu est pour nous créateur et souverain maître, et nous ne sommes que ses serviteurs, sa propriété, sa chose. Mais dans l'ordre de la grâce, Dieu se donne comme notre Père et nous sommes ses enfants adoptifs. Privilège qui est la base de notre vie surnaturelle. Saint Paul le dit dans son épître aux Romains. Vous n'avez point reçu l'esprit de servitude, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants, en qui nous nous écrions « Abba, Pater ». L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Bien, mais comment devenons-nous des enfants de Dieu? C'est par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre ressemblance avec lui, par une participation à sa vie. Il est né de Dieu, Fils unique de Dieu, dit saint Augustin. Et il n'a pas voulu demeurer fils unique. Des hommes adoptent les enfants quand ils n'en ont point. Celui qui a un fils unique se complaît en lui. Il le mettra en possession de tous ses biens. Personne ne viendra partager avec lui et l'appauvrir. Dieu agit autrement. Il avait un fils unique et il l'a envoyé sur terre pour qu'il se fît des frères d'adoption. Et en faisant de nous ses frères, il nous a fait ses co-héritiers. Son héritage ne serait pas diminué si beaucoup le possèdent. Ils seront eux-mêmes son héritage, et il sera aussi leur héritage. Il faut donc que nous le possédions et qu'il nous possède, et qu'il nous possède comme sa propriété, et que nous le possédions comme notre salut. La grâce qui nous rend participants de la nature divine, et c'est ainsi que nous devenons des fils adoptifs de Dieu, cette grâce, reçue pour la première fois au jour de notre baptême, détruit toute inégalité dans les conditions, élevant tous les hommes, ignorants ou savants, riches ou pauvres, à la même grandeur, leur communique le même caractère royal, les fait entrer dans la possession de la même nature divine, les fait habiter par le même Dieu. Dieu le Père nous adopte donc, en voyant en nous l'image de son propre Fils. Mais comment ce meilleur de tous les pères, nous éduque-t-il? Car, même sur la terre, le rôle des parents ne se limite uniquement à engendrer ou à adopter les enfants. Ils doivent manier l'art de les élever. Eh bien, Dieu le Père éduque ses enfants en les faisant souvent marcher sur un chemin, sur une voie, voie adaptée aux enfants, mais qui les dirige jusqu'au sommet de la perfection chrétienne. Il s'agit de la petite voie de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voie qui n'est pas invention de cette sainte, mais qui répond au commandement de Jésus-Christ lui-même. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il s'agit pour la petite Thérèse de transposer les qualités natives de l'enfant dans la vie de l'enfant de Dieu. D'abord, qualités naturelles de l'enfant. Quelles sont-elles ? Malgré les petits défauts qu'on peut trouver dans chaque tout petit, il est emporté, entêté, espiègle, on trouve généralement en lui, et surtout s'il est baptisé et élevé chrétiennement, les deux qualités, la simplicité et la conscience de sa faiblesse. La simplicité ou l'absence de duplicité est chez l'enfant tout spontané. Il se montre tel qu'il est, il dit ce qu'il pense et ce qu'il désire, sans crainte du « qu'en dira-t-on ». Il a aussi conscience de sa faiblesse. Il ne peut rien de lui-même. Il dépend en tout de son père et de sa mère, ces deux qui reçoivent tout. Et cette conscience de sa faiblesse est le germe de l'humilité, de se voir tel qu'on est en réalité. Et l'humilité le conduit à pratiquer la foi, l'espérance et la charité. Ici, ce sont des vertus naturelles. L'enfant croit spontanément à ce que lui disent son papa et sa maman. Il a naturellement confiance en eux et il les aime de tout son cœur. Or, ces qualités natives de l'enfant, simplicité, humilité, foi, espérance, charité, doivent se retrouver aussi dans l'enfant de Dieu, mais d'une manière supérieure, surnaturelle. L'enfant de Dieu doit d'abord être simple et droit, loin de lui l'hypocrisie, le mensonge, ou encore de chercher à passer pour ce qu'il n'est pas. Le tout petit de Dieu est obligé aussi de reconnaître son indigence, que Dieu l'a créé de rien et que sans la grâce, il ne peut absolument rien pour se sanctifier et se sauver. Si cet enfant grandit dans cette humilité, il aura une foi toujours plus profonde en la parole divine, plus encore que les petits ont la parole de leurs parents, une foi sans respect humain et dont il sera fier. L'enfant de Dieu verra aussi son espérance s'affermir de jour en jour, espérance qui se changera en un abondant confiant en la providence. Les bras du Seigneur sont, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme l'ascenseur divin qui nous élève vers lui. Enfin, l'enfant de Dieu aime de plus en plus son Père. Il l'aime pour lui-même et non seulement pour ses bienfaits, comme un bon petit aime sa maman plus que les caresses, même plus que les bonbons qu'il reçoit d'elle. L'enfant de Dieu aime son Père dans la joie et dans la croix, dans les moments difficiles, crucifiants. Il se rappelle qu'il doit l'aimer de toutes ses forces, lui être uni par la volonté et non par le caprice. Ce dernier trait montre que la petite voix d'enfance spirituelle, petite, n'est pas si petite que ça, qu'elle devrait s'écrire avec un P majuscule, car elle demande souvent de la vaillance dans l'épreuve, de la force d'âme. La petite voix de l'enfance spirituelle de notre petite Thérèse ressemble donc à l'enfance naturelle, mais elle en diffère aussi. Dans l'ordre de la nature, dans vos familles, chers fidèles, plus l'enfant grandit, plus il doit se suffire à lui-même. Le vieux garçon, le monsieur de 44 ans, viendra parfois visiter sa mère, mais il ne dépendra plus d'elle comme avant. Ce sera à lui alors de la soutenir. Au contraire, dans l'ordre de la grâce, l'enfant de Dieu devient de plus en plus dépendant de son Père, jusqu'à ne vouloir plus rien faire sans lui, sans ses inspirations, sans ses conseils. Il doit vivre livré à l'activité du Saint-Esprit, comme le voilier au souffle du vent, pour pouvoir un jour atteindre le port ou la porte du ciel. On a parlé beaucoup du Père, mais on a oublié la mère. Et pourtant, dans le domaine de la nature, les deux parents sont indispensables à une éducation harmonieuse de l'enfant. Ainsi, entre la faiblesse de l'enfant et la force du père, il y a ce mélange de faiblesse et de force, pétri de délicatesse, qui est le cœur maternel. Et de même, dans le domaine de la grâce, entre Dieu Tout-Puissant et nous, la sagesse divine a établi celle qui, étant à la fois la mère de Dieu et la mère des hommes, possède tout ce qui est capable pour nous transformer en des enfants de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, après Saint Augustin, compare Notre-Dame à un moule. Et il dit ceci: il y a deux façons d'arriver à produire une statue. L'une consiste à la sculpter dans un bloc de marbre ou de bois, l'autre à se servir d'un moule. La première manière est difficile et lente. Il faut donner une infinité de coups. La moindre maladresse peut tout gâter. Et pour reproduire parfaitement l'image de celui que l'on veut représenter, il faut être habile, il faut être artiste. Le moule, au contraire, s'il est conforme au modèle, permet à n'importe qui d'obtenir une statue parfaitement ressemblante, à condition que la matière qu'on y jette soit bien liquéfiée. Le modèle, c'est clair, c'est notre Seigneur. La matière, c'est nous. Et le moule, c'est Notre-Dame. Ce moule, toujours notre saint, est parfait parce qu'il n'a subi aucune déformation. Il veut dire qu'elle était toujours immaculée, toujours vierge. Et qu'il, ce moule, a donné à Jésus une humanité sans défaut. Tous ceux qui sont jetés dans ce moule divin sont bientôt formés et moulés en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux. À peu de frais et en peu de temps, ils deviendront des dieux, c'est-à-dire enfants, fils adoptifs de Dieu le Père. Puisqu'ils sont jetés dans le même moule qui a formé un Dieu. Mais attention, chers fidèles, si nous voulons prendre véritablement toutes les formes que notre maman du ciel veut nous imprimer, on doit devenir comme un métal bien fondu, bien liquide, apte à pénétrer dans tous les détails du moule, c'est-à-dire nous devenons détruire, fondre en nous le vieil homme avec toutes ses inclinations vicieuses. Cela n'est pas un petit travail. Mais courage, ce travail lui-même s'accomplit en Marie et avec Marie. Soyons donc de bons enfants, enfants dociles, qui se laisseront éduquer sous la main paternelle du bon Dieu et sous le cœur de l'Immaculé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.